Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un chaud devant Festival International du Film de Fiction Historique avec Maud Wheeler. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Bonjour Sacha.
Bonjour Vanessa.
Le Festival International du Film de Fiction Historique, on commence à vous en parler, hein. Il y a des films qui commencent à sortir. Voilà, vous avez eu dernièrement Marcel et Monsieur Pagnol avec Anaïs Petiot et puis Laurent Lafitte aussi, hein, qui a reçu son prix d'honneur au festival et qui prête sa voix dans Marcel et Monsieur Pagnol, tout comme Anaïs Petiot. Et c'est vrai que, il y a eu beaucoup d'invités prestigieux, un tapis rouge exceptionnel cette année, dont le jury court-métrage. Dites-moi, mais quel jury court-métrage? Franchement, les petits plats dans les grands. Ah ouais. Ah oui, je peux pas le dire autrement parce que c'était fou d'avoir un jury court-métrage aussi impressionnant. Parlons de la présidente du jury, même si elle aimait pas qu'on dise ce mot-là, mais c'était quand même la présidente du jury court-métrage, Noémie Lvovsky. Et puis, vous avez le comédien, l'acteur, le impressionnant, que ce soit au théâtre ou devant une caméra, c'est André Marcon qui était présent aussi, qui faisait partie du jury, et la troisième, non des moindres, actrice émérite qui sait, pour moi, tout jouer, que ce soit dans des films, dans des séries, sur scène aussi, au théâtre, c'est Maud Wheeler. Et quelle immense plaisir de pouvoir rencontrer cette actrice, cette femme qui se donne corps et âme à chaque fois dans ses rôles, que ce soit des rôles modernes, voilà, dans tout plein de films, que ce soit des rôles historiques où ça, c'est pas évident de jouer Marie-Antoinette, c'est pas du tout évident de jouer Joséphine. Joséphine, quand même, rendez-vous compte, c'est assez fou, assez fort, et j'ai vraiment, mais adoré, l'interview qu'on m'a accordée. Et merci encore au festival de m'avoir accordé cette interview, et je vous propose de la découvrir.
Bonjour Maud.
Bonjour Vanessa.
On est au Festival International du Film de Fiction Historique. Ça y est, vous êtes enfin venue. Il y a tant qu'on vous attendait.
Vous avez suivi.
Oui, j'ai suivi.
Oui, je suis là. Non, ça faisait un moment que, effectivement, le festival m'invitait. Et depuis que je pense que j'ai joué Marie-Antoinette. Et oui. Puis là, depuis que j'ai joué Laurence Chirac, j'ai joué Joséphine Bonaparte, moi je dois y aller. Et là, j'avais l'espace pour le faire.
Ah, c'est génial. Pas de tournage, tout va bien.
Ouais. Parce que c'est souvent, c'est très dense à la rentrée des tournages, mais là, il n'y avait pas.
Et puis, on avait eu l'équipe de Mixte aussi, qui était venue nous faire un petit coucou.
Ah, l'équipe de Mixte, oui. C'était passé.
Avait parlé justement du petit personnage, tout ça. Ah, c'était une belle aventure Mixte.
L'histoire que ça racontait, moi, ça me plaisait vraiment de raconter une histoire d'amour homosexuel dans la France des années 60, où il y a la police des mœurs qui réprime violemment justement toute liaison homosexuelle, et de le faire dans un cadre comme ça d'Amazon, très grand public, je trouvais qu'il y avait absolument du sens. Ce que j'ai appris, j'ai découvert la littérature à ce moment-là de Monique Wittig, entre autres, et ça m'a permis de m'instruire sur toute cette littérature géniale et absolument vivifiante des lesbiennes de cette époque-là. Je suis très reconnaissante à ce projet
Ouais, on était déçus de ne pas avoir une saison 2, c'est vrai.
Tout le monde était, c'est fou, hein. Ouais. Je reçois encore des messages qui me disent, est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas de saison 2?
Mais le rendu était magnifique, quoi.
Oui, oui, je pense qu'il y avait une très belle tenue du récit. Et puis le casting, moi je les adore.
Oui, le casting.
Tout c'est... Et je pense souvent à eux, je me dis, ils
sont où? Lula Cotto-Frappier.
Bah oui, ils sont où? Est-ce qu'ils vont bien? Il y avait une tendresse, une intelligence dans leur façon de travailler ensemble. J'étais admirative. Je me souviens de la première lecture avec eux autour d'une table. On était, donc il y avait quelques vieux, on était proches de la quarantaine. Et puis il y avait eux, mais on avait tout à apprendre d'eux. Ils étaient brillants.
Oui, c'est vrai. Et puis en plus, ils avaient cette envie de transmission de votre part. Et je sais qu'il y a une personne justement qui m'a dit, elle m'a beaucoup apporté sur des scènes.
Oh, ça me touche beaucoup.
Bah oui, je ne peux pas vous voir sans parler de Marie-Antoinette. C'est commémorable votre rôle et puis cette dimension que vous lui aviez donnée. Comment vous étiez rentrée dans le personnage à cette époque?
Oh, merci beaucoup, Vanessa. Dis donc, je vais pleurer ce matin à Plaisance du Touche d'être émue. Marie-Antoinette, c'est un monde de la même manière que pour moi, que j'ignorais et dans lequel je suis rentrée. C'est vraiment une chance à chaque fois. De chance qu'on a en tant qu'interprète, c'est qu'on ouvre une page de l'histoire. Et avec Marie-Antoinette, j'ai découvert toutes les contradictions aussi d'une époque à l'intérieur d'un corps féminin qui a incarné le pouvoir et en même temps qui était moqué pour ça. Donc j'ai eu besoin d'entendre... Stefan Zweig m'a aidée beaucoup avec sa biographie géniale. Et j'ai eu besoin d'entendre sa voix à elle. J'ai eu besoin de chercher... Donc j'ai lu des lettres qu'elle avait... J'ai essayé de trouver comme ça pour comprendre depuis quel endroit elle parlait. Et ce que j'ai découvert... m'a beaucoup étonnée, je ne m'attendais pas à ça. J'ai découvert vraiment une amie, elle avait une loyauté infinie dans ses amitiés, un instinct maternel qu'elle avait développé très fort et jusqu'au bout, jusque dans sa défense pendant son procès, quand elle est quand même accusée par l'accusateur public, elle est accusée d'inceste. Hein.
Ah, mais oui.
Ils essayent vraiment de la diffamer pour l'emmener ensuite à l'échafaud. De toute façon, elle était condamnée parce qu'elle était malade. Et elle saignait beaucoup. Maintenant, les historiens disent qu'elle avait probablement un cancer à l'utérus. Et les médecins disaient, si vous ne la condamnez pas maintenant, si vous ne faites pas son procès maintenant, elle mourra. Donc, si vous voulez la tuer, il faut tuer quelqu'un vivant, c'est maintenant. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce procès express. Donc, tout ça est très étonnant de voir comment, en fait, la grande histoire est aux prises avec des choses qu'on ignore, qui sont des choses de physique, organique, des sentiments, enfin, ces histoires d'amour, ces frustrations. Enfin, voilà, ça m'intéresse. Ça, c'est vraiment un privilège qu'on a en tant qu'acteur de... On peut comprendre, on va faire ce travail de se déplacer et d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et enfin, souvent, je suis surprise de ce que j'en apprends.
De l'impact, ouais.
Ben parce que j'imaginais pas ça de la personne. Et me parvient, par ce travail, me parvient autre chose que l'imagerie que j'en avais.
Dernièrement, elle a été adaptée aussi en série. Marie-Antoinette et on aime parce que on montre toute la fragilité qu'elle a. Je ne sais pas si vous avez vu la série sur Canal+.
Non, j'ai pas vu la série. Effectivement, elle est un personnage romanesque. Je veux dire, elle a des fans dans le monde entier. Encore maintenant, je veux dire, si elle avait un Instagram, Marie-Antoinette, aujourd'hui, elle serait numéro. Elle aurait un nombre de followers. C'est délirant en Asie et tout. Et puis Joséphine a ça aussi, Joséphine. Ouais. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a fait que ces femmes qui ont été moquées? Quelle vibration est restée dans l'histoire pour faire d'elles aujourd'hui encore des célébrités?
Mais Joséphine avait cette force aussi que Marie-Antoinette n'avait pas, puisqu'il y avait la jeunesse et tout. Et Joséphine avait cet impact, en fait, d'aller de l'avant et non de rester.
Ouais, c'est très juste. Elle avait, disons que Joséphine, comment elle s'est constituée en tant que femme de pouvoir, elle a été très active à l'intérieur de ça. Marie-Antoinette, probablement qu'elle n'en pensait pas moins, mais elle était très soumise au pouvoir. Bon, c'est une époque aussi qui est différente. Hein. C'est ça. Mais c'est intéressant de les mettre en comparaison pour ça. En même temps, j'avais joué aussi Madame. j'ai joué différents personnages, mais je me rends compte aussi dans le corps d'une femme. Après, j'ai joué une femme pendant la Première Guerre mondiale. Par exemple, le rapport au corset, le rapport au corps. J'ai dit.
C'est pas évident avec
c'est
ce corset.
C'est pas la même chose.
Il devient plus souple au fur et à mesure des années.
C'est très intéressant. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes se retrouvent en première ligne, activement. Elles utilisent leur corps pour les travaux de la ferme, pour les travaux industriels. Elles se retrouvent dans les usines. Et donc, le corset les empêche. Donc, il y a un corset tout d'un coup qui va vraiment se réduire. Qui va devenir beaucoup plus souple et beaucoup plus court. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la fin de la Première Guerre va rallonger le corset des femmes. Elles vont faire un pas en arrière, rallonger, et va les recorseter, va les restreindre dans leur mouvement, alors qu'on avait gagné. Tout ça, c'est parce que j'ai mis les costumes que je m'en rends compte. Et j'ai compris à quel point le corps, en l'occurrence le corps féminin, était modelé sans cesse par l'histoire.
Quand vous parlez du corps féminin qui est modelé, je ne peux pas passer à côté de toi qui n'as rien vu, qui est somptueux. On pourrait le mettre dans le cas historique, parce que c'est vraiment le fait de dire voilà, ce déni de grossesse. Et cette femme qui est complètement perdue à savoir si avec son enfant et qui vous étiez tellement bouleversante dedans. Ce film il a eu un tel impact en fait, on s'est pris un aller-retour. C'était vraiment dans l'émotion en plus du regard.
Ouais, ouais.
Tout passait là-dedans.
Mais je vois ce que vous voulez dire sur le côté historique parce que. Effectivement, il y a un marqueur et on y est encore, hein. Mais il y a quelque chose sur lequel on n'avance pas à cet endroit-là, où on n'écoute pas ce qu'ont à nous dire ces femmes et c'est pire que ça, on les emprisonne. Donc, ce qui est très troublant avec ce film, toi non plus tu n'as rien vu, Béatrice Paulet, c'est qu'il y a eu aussi un déni. Au moment de la sortie, ça veut dire que, par exemple, le magazine Elle nous a dit « Non, on ne va pas parler du film, on a déjà tellement parlé du déni. » Moi, je dis « Ah bon, on a déjà tellement parlé du déni de grossesse ?» Alors, ça m'a complètement échappé, mais peut-être je ne lis pas suffisamment Elle. Mais il y a eu un problème d'exposition, par exemple. Il n'y a pas eu d'avant-première parisienne pour ce film. Alors que Géraldine Nakache... que j'embrasse au passage, que j'aime...
Elle est venue nous voir à Toulouse.
Ah ouais.
Elle est venue nous présenter le film et tout.
Mais c'était très troublant de voir qu'il y avait un déni sur le déni. Il y avait quelque chose au carré. Et oui, donc ça l'inscrit dans notre histoire contemporaine complètement, parce qu'il faut fermer ça, quoi, sur ces questions-là.
Ah ben oui, tout à fait. Jury, court métrage. C'est un sacré challenge parce que voir tous ces courts-métrages, voir la technique, l'interprétation, comment vous allez vous placer ?
Bon, déjà, c'est absolument honorable d'être jury et de recevoir le travail. Et ce que je trouve absolument précieux dans le court-métrage, c'est que personne ne nous demande a priori de faire un court-métrage. On n'a pas besoin de court-métrage. Donc la personne qui se retrouve à faire un court-métrage, ça vient vraiment de son désir propre. Et c'est cette chose-là qui, après, quand on arrive dans le marché du show business, est inquiétée, le désir propre du réalisateur. Donc là, pour moi, c'est tellement joyeux de pouvoir vérifier ce désir-là dans les projets qu'on va voir. Ça me touche beaucoup dans le rapport à la sincérité des gens qui se mettent je vais faire un court métrage. Ah bon, folie. Non, je vais le faire et de le mener jusqu'à bout et que ça arrive après dans les festivals. Et c'est des petites histoires et je suis toujours hyper étonnée en bien de voir que les festivals de court métrage ne désemplissent pas. et qu'il y a quelque chose justement que parfois n'arrive pas à faire le cinéma ensuite, c'est cette chose qui est absolument populaire et qui est à la disposition de tout le monde, et d'autant plus avec les outils là. Et ça raconte ça, ça raconte pour moi la démocratie et le court-métrage dans notre rapport au cinéma. Et pour ça, c'est un outil hyper précieux. Et je pense qu'il faut se battre pour que le court-métrage continue à être subventionné, continue à exister dans les festivals. Parce que pour moi, c'est une forme de porosité. Et c'est pas juste simplement j'avais ma famille qui était dans le cinéma, donc j'ai fait du cinéma. Tout d'un coup, ça peut. Et moi, j'ai envie de croire à ça, hein, sinon ça ne m'intéresse pas, je dois dire.
Dernière question, est-ce qu'il y a des projets?
Alors, je touche du bois.
je le touche aussi. Voilà. Il y a un projet, mais c'est top secret.
Il y a un projet,
non,
top secret, mais il y a un projet qui, un film qui s'appelle Une histoire turque, qui est un film contemporain, qui va se tourner dans un mois. Si tout va bien, mais voilà, il faut que ça se fasse. Je pense qu'on a beaucoup de choses à raconter aussi. C'est des projets, les projets sur lesquels je suis, étonnamment, sont binationaux.
D'accord.
Et je trouve ça vraiment vivifiant qu'il y ait ce dialogue-là.
Merci beaucoup.
Merci mille fois.
Ah oui, ça donne envie. Et quelle joie de vivre, quelle passion dans sa manière de raconter ses rôles, dans sa manière de nous expliquer ses projets, tout ce qui va arriver. Ah, ça donne vraiment, vraiment envie d'en découvrir plus parce que oui, elle en a fait des films, elle en a fait des séries, elle a aussi fait pas mal de courts-métrages, oui, des courts-métrages assez intéressants, des voix, de la scène, où vous avez eu plaisir à la découvrir. Et c'est vrai que on a parlé aussi de la série Carême, qui a fait fort impression au festival Sérimania, et dont j'ai eu l'honneur de parler avec elle. Et puis ce film très fort, très 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 juste sur le fait de les choses qu'on ne voit pas, le déni de grossesse. Et c'était un pur bonheur aussi de pouvoir en parler avec elle et de discuter de toi non plus, t'as rien vu. Parce que sa prestation dans ce film-là m'a vraiment bouleversée. Et je trouve qu'elle a vraiment habité le rôle, comme tous ses rôles historiques, comme tous les rôles qu'elle va nous offrir prochainement, que ce soit à l'écran, que ce soit dans les séries, que ce soit aussi sur scène. On a très 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 envie de la retrouver sur scène, sur les planches. En tout cas, chapeau à ces trois membres du jury, à Noémie Lovski, André Marcon et Maud Wheeler, pour ce palmarès avec ce film incroyable, court-métrage, qui promet un très très grand avenir, je pense, à Andy Buron, son réalisateur. J'ai nommé le film Dans la boue, qui est vraiment très beau, avec Félix Lefebvre, qui est très 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 bien joué, et je comprends le coup de cœur du jury, donc qu'il a eu le prix du jury, et puis aussi ce petit prix coup de cœur à côté qui a été donné aussi à Wakers, qui était vraiment aussi très fort, très bien amené et complètement différent du premier. Et franchement, on peut saluer la sélection qui a été faite par le Festival international du film de fiction historique. C'était Chaud Devant, Festival International du Film de Fiction Historique avec Maude Wheeler. Merci beaucoup à Maude pour son interview. Merci pour ces moments de partage aussi. Merci pour ce rire. Merci pour cette joie de vivre et surtout pour ce palmarès assez impressionnant. Et puis, à très bientôt sur les écrans, en série ou même sur scène, sur les planches. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees.